Bonjour à toutes et à tous, il est tout juste 11h à Paris.
Olivier Sherman.
Israël poursuit ses attaques en Syrie. Plus de 20 frappes ont visé des sites militaires syriens la nuit dernière après les abords du palais présidentiel La Vieille. L'État hébreu bombarde Damas au moment où le pouvoir syrien est ébranlé par les violences communautaires. Une victoire syndicale importante en Égypte. Elle concerne le syndicat des journalistes. Reconduit pour 2 ans, Khaled El-Bashi se donne une priorité, faire libérer les 20 journalistes actuellement emprisonnés en Égypte. Un défi de taille. L'Égypte classée 170 pays sur 180 en matière de liberté de la presse selon Reporters sans frontières. Les armes utilisées par les groupes djihadistes au Sahel, Central, Mali, Niger et Burkina proviennent majoritairement du pillage des armées nationales de la région. C'est la conclusion d'un rapport publié cette semaine. Enfin, le puissant réseau social TikTok condamné à 530 millions d'euros d'amende pour ne pas avoir garanti une protection suffisante des données personnelles des Européens en Chine. TikTok est depuis des années dans le viseur des Occidentaux qui redoutent son lien avec Pékin et un possible usage des données personnelles à des fins d'espionnage ou de propagande. La bande de Gaza, encore et toujours sous les bombes israéliennes. La défense civile palestinienne annonce ce matin la mort de 11 personnes, dont 3 enfants en bas âge, dans une frappe israélienne cette nuit sur le camp de réfugiés de Ran Younes, dans le sud de l'enclave. Hier déjà, au moins 42 personnes ont été tuées dans de nouvelles frappes. L'armée israélienne a repris ses bombardements et son offensive sur la bande de Gaza le 18 mars, mettant fin à 2 mois de trêve avec le Hamas. Les attaques israéliennes se sont également poursuivies, mais en Syrie, cette fois, plus de 20 frappes ont visé des sites militaires syriens la nuit dernière, les bombardements les plus violents cette année. L'agence officielle syrienne Sana annonce qu'un civil a été tué. L'armée israélienne confirme bien de son côté avoir visé des infrastructures militaires près de la capitale de la Syrie. Israël, hier matin à l'aube, avait bombardé les abords du palais présidentiel syrien à Damas, une violation de la souveraineté territoriale de la Syrie condamnée par le secrétaire général de l'ONU. La présidence syrienne dénonce une dangereuse escalade et le contexte est crucial car l'État hébreu frappe au moment où le pouvoir syrien est ébranlé par les violences communautaires. Alors, Alice Froussard, quel est le message qu'Israël fait passer ?
À première vue, Israël, qui abrite aussi une population druze sur son territoire, veut se poser en défenseur des minorités de Syrie. Mardi, l'État hébreu frappait une première fois en banlieue de Damas. Un message ferme au gouvernement syrien, affirme Benjamin Netanyahou. Israël attend qu'il agisse pour protéger la communauté druze, justifie le Premier ministre. Mais ce soutien, bruyant, sert surtout les propres intérêts d'Israël, explique une habitante druze de Jaramana, jointe par téléphone, qui a préféré rester anonyme.
Israël essaie surtout de diviser la population pour diviser la terre, parce que c'est aussi leur but de mettre la main sur des villes comme Souaïda, Dera et sur les régions du sud de la Syrie. Les Israéliens veulent s'accaparer nos terres, ils veulent occuper des parties de la Syrie, ils utilisent ces violences confessionnelles comme un catalyseur, ils les instrumentalisent comme l'a fait le régime de Bachar al-Assad avant eux.
L'armée israélienne est solidement implantée en Syrie, sur Jabal al-Sher, autrement appelé le mont Hermon. Elle verrouille l'accès au plateau du Golan et a gagné du terrain depuis la chute de Bachar al-Assad. Dans le même temps, d'après le chercheur spécialiste de la Syrie Charles Lister, Israël ne veut pas d'un État fort à ses côtés, voire cherche à encourager un changement de régime. Quant au ministre israélien d'extrême droite, Bezalel Smotrich, en charge des finances, il a déclaré en début de semaine, je cite, qu'Israël devait démanteler la Syrie.
En Égypte, les journalistes respirent. L'opposant Khaled El-Bashi a été réélu à la tête de leur syndicat. Sa large victoire face à Abdel Moshen Salama, candidat proche du régime, souffle un vent d'espoir pour la profession et même au-delà. Depuis son arrivée à ce poste en mars 2023, le syndicat s'est imposé comme l'un des rares espaces de liberté dans le pays, tenu d'une main de fer depuis 2013 par le maréchal président Al-Sisi, au Caire, Martin Dumas Primbault.
Une vague de soulagement a déferlé sur le syndicat des journalistes égyptiens ce vendredi soir, quelques minutes après 22h.
On est très soulagés et heureux. On va pouvoir travailler dans un climat plus serein, plus professionnel.
Saïd Hassan, journaliste au quotidien Vito, redoutait la victoire du candidat adverse, soutenu et poussé par le régime.
Une défaite aurait été douloureuse. Il n'y a que Khaled qui défend nos libertés, nos droits et se bat pour les faire appliquer.
Sous sa présidence, le syndicat est devenu un symbole, le dernier espace de mobilisation, notamment pour Gaza, alors que toute manifestation est interdite depuis plus de 10 ans.
Les marches devant le syndicat sont devenues un lieu de protestation hebdomadaire, surtout depuis le 7 octobre 2023. Avant le vote, on craignait que ça s'arrête. Heureusement, les rassemblements vont pouvoir continuer.
Reconduit pour 2 ans, Khaled El-Balchi se donne une priorité, faire libérer les 20 journalistes actuellement emprisonnés en Égypte. Un défi dans un pays classé 170e sur 180 en matière de liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Martin Dumas Prambo, Le Caire, RFI.
D'où proviennent les armes utilisées par les groupes djihadistes au Sahel? C'est la question à laquelle tente de répondre le rapport publié cette semaine par Conflict Armament Research, un projet de recherche européen qui trace les armes utilisées dans les conflits à travers le monde. Pour cette étude consacrée au Sahel central, Mali, Niger, Burkina Faso, les chercheurs concluent que les armes utilisées par le JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda, ou par l'État islamique au Sahel, proviennent majoritairement du pillage des armées nationales de la région. David Baché.
Au moins une arme sur 5, 20% de l'arsenal djihadiste provient des armées régulières de la région. Elles ont été amassées lors d'attaques menées sur place contre les forces maliennes, nigériennes et burkinabées. Mais le Conflict Armament Research a aussi identifié des armements provenant des forces de Côte d'Ivoire, du Libéria, de Libye, du Nigeria et du Tchad. Ces détournements constituent, selon les chercheurs, la principale source d'approvisionnement des groupes djihadistes, qui en ont même fait un aspect clé de leur double stratégie, affronter militairement les autorités étatiques et se procurer les armes nécessaires pour mener leurs opérations. En témoigne la propagande du JNIM qui diffuse régulièrement des vidéos présentant ces butins de guerre. Plus de 700 armes récupérées lors d'opérations antiterroristes ont été analysées. Fusils mitrailleuses, lance-grenades, mortiers. L'enquête conclut que les groupes djihadistes s'approvisionnent essentiellement à cette échelle locale du fait des contraintes logistiques et géographiques. Lorsqu'elles n'ont pas été pillées aux armées régulières, leurs armes vieillissantes ont souvent servi à d'autres acteurs illicites de la région. Les chercheurs assurent n'avoir trouvé aucune preuve convaincante de l'existence d'approvisionnements directs en armes depuis l'extérieur du Sahel central.
La CIA va supprimer 1200 postes, c'est ce que rapporte le Washington Post dans le cadre de la poursuite du projet de budget d'austérité de la Maison-Blanche. La CIA, la principale agence américaine de renseignement extérieur, emploie selon des estimations plus de 20 000 salariés. Mais le chiffre n'est pas public. Les suppressions de postes à la CIA devraient intervenir sur plusieurs années sans licenciement. Selon le Washington Post, des coupes vont aussi toucher la NSA, une autre agence de renseignement notamment spécialisée dans l'écoute et le cyberespionnage. Le réseau social chinois TikTok écope d'une amende de 530 millions d'euros pour avoir échoué à garantir une protection suffisante des données personnelles de ses utilisateurs européens. Et les explications d'Agnieszka Kumor.
Le chiffre donne le tournis. 530 millions d'euros, c'est la deuxième plus grosse amende jamais infligée par le régulateur irlandais. Après 1,2 milliard d'euros écopés par Meta en 2023, toujours pour le transfert des données. Selon le communiqué, TikTok n'est pas parvenu à démontrer que les données personnelles des Européens, accessibles à distance depuis la Chine, étaient protégées là-bas de même manière qu'en Europe. Le risque existe en effet que les autorités chinoise puisse y avoir accès. La plateforme qui revendique 1,5 milliard d'utilisateurs appartient à ByteDance, un groupe chinois. Mais depuis plusieurs années, l'entreprise est dans le viseur des gouvernements occidentaux. Ses liens avec Pékin inquiètent. Les données personnelles des utilisateurs pouvant facilement être utilisées à des fins d'espionnage ou de propagande. En 2024, le Congrès américain a ainsi obligé ByteDance à céder le contrôle de sa plateforme sur le sol américain sous peine d'interdiction aux États-Unis.
En Russie, le maire de la ville portuaire de Novorossiysk déclare l'état d'urgence après que les autorités locales ont annoncé qu'une attaque de drones ukrainiens avait endommagé un terminal céréalier et plusieurs bâtiments résidentiels. Il y aurait eu 5 blessés. Enfin, l'Inde interdit les importations de marchandises en provenance du Pakistan ou transitant par le pays. C'est une décision qui prend effet immédiatement. Vous écoutez RFI, il est tout juste 11h10 à Paris.